Depuis que le professeur Benyekles m'a invité au printemps à faire cette conférence, je retrouve la sécurité juridique un peu partout et bien entendu elle attire mon attention. Par exemple, j'ai trouvé une interview faite à un opérateur économique qui expliquait que l'absence de sécurité juridique dans certains pays, notamment dans les pays de l'Afrique francophone, rendait difficile la pénétration des investissements dans ces pays. Mais il y a aussi un groupe qui s'est formé, qui s'appelle Sécurité juridique au sein de la communauté européenne, qui s'occupe surtout de titres intermédiaires. Donc cette notion est une notion vaste, une notion qui pénètre un peu partout dans tous les secteurs des transactions. Et en l'analysant, je me suis retrouvée donc à avoir un cadre très composé et très plein de facettes. Dans mon intervention d'aujourd'hui, j'essaierai de suivre un plan un peu réduit, parce que sinon ça nous porterait vraiment trop loin. Je suis très heureuse d'être ici, parmi vous, de revenir après 6 ans dans cette université sur l'initiative du Centre de recherche en droit public, en particulier de son directeur, ce qui me permet d'ailleurs d'être devant un groupe de personnes dont plusieurs me sont très chères. En particulier, je remercie beaucoup Madame le juge pour sa présence. La sécurité juridique. Une définition de sécurité juridique peut être assez difficile à donner. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, elle est citée un peu partout, mais les définitions sont rares. Par exemple, la Cour constitutionnelle italienne, j'ai cherché sur une banque de données, l'a utilisée 500 fois, mais sans jamais donner de définition. Une définition possible, et c'est celle que je vais retenir tout d'abord, est celle que la sécurité juridique nous offre la prévisibilité des conséquences que le droit attachera aux actes et aux faits de notre vie. Elle permet donc de compter sur la prévisibilité de nos actions dans le futur, et elle est donc même à l'essence de la vie ordonnée des personnes. Elle constitue donc une des fonctions essentielles du droit. Est-ce que la sécurité juridique dans les transactions internationales se présente de manière différente? Et bien sûr, la réponse est affirmative à première vue, car tout de suite on pense que les transactions internationales se déroulent dans des milieux différents et que donc des difficultés à la poursuite de la sécurité juridique sûrement se présentent de façon plus intense. La sécurité juridique dans les transactions internationales peut être mise en danger par plusieurs facteurs. D'abord, la pluralité des ordres juridiques qui amène à la difficulté de les connaître, la difficulté donc non seulement de connaître le droit, mais aussi les difficultés d'interprétation, les difficultés d'évaluer la validité des lois. Et ces difficultés, bien entendu, sont exacerbées lorsque le pays est éloigné et est moins connu. Cependant, des règles existent pour faire face à ces difficultés. Et j'essaierai donc de donner un aperçu de ces règles et d'en vérifier l'efficacité. En analysant aussi, si vous me le permettez, le rôle des organisations internationales, étant donné qu'à UNIDROIT, je vois ça un peu plus de près, et le rôle des États, dont on parle souvent, c'est une question bien connue, d'un recul de leur souveraineté face aux transactions internationales. La globalisation des échanges, qui est la dimension où se déroulent les échanges à l'heure actuelle, a trois facteurs principaux. C'est d'abord les échanges internationaux de biens et de marchandises, c'est ensuite les investissements directs dans les pays étrangers, et c'est enfin la circulation des capitaux. Alors, ces trois facteurs se sont progressivement ajoutés dans le temps, dans les époques. Maintenant, ils sont tous présents, ils se sont ajoutés l'un à l'autre, et leur dimension est énorme. Il suffit de penser que, déjà, la grande dimension du commerce international de biens et de marchandises la circulation de capitaux en représente 3 fois la valeur. Donc, dans le monde globalisé, l'échange sur les marchés de capitaux est 3 fois la valeur des marchandises, ce qui est effarant, vraiment, et présente, bien entendu, des problèmes nouveaux. En analysant le problème de la sécurité juridique, première question, posé le problème de l'environnement juridique, c'est-à-dire qu'on intervient dans certains pays qui présentent des risques de sécurité juridique. Comment est-ce que le problème de ces risques a-t-il été vu par le droit? Est-ce que le droit est intervenu? Et puis, dans une deuxième partie, nous verrons que lorsque ces premières difficultés sont réglées par le droit, il y a aussi les difficultés réglées aux transactions elles-mêmes d'un point de vue privatiste. Tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, les États, surtout sur l'initiative de certains d'entre eux, ont voulu donner un cadre juridique aux échanges internationaux, notamment en vue de les faciliter. Ce cadre avait dès le début un projet à plusieurs aspects. Le premier est bien entendu contenu dans les accords de Bretton Woods, que j'évoquerai rapidement, sur les paiements internationaux, et qui ont constitué, comme vous le savez, le système de la Banque mondiale. Le deuxième aspect aurait dû être, car là il s'agit d'un échec, l'institution d'une organisation internationale du commerce. La conférence des Nations Unies réunie à Cuba à cet effet n'a eu pas de succès. Le projet, ou mieux, la charte de La Havane, parce qu'elle avait été adoptée à un premier moment, n'a jamais été ratifiée, n'est jamais entrée en vigueur. Apparemment donc un échec. Cette organisation qui était considérée comme nécessaire aux échanges n'a pas vu le jour. Mais nous savons très bien qu'une partie, celle qui concernait la politique commerciale de cette charte, restée un morceau de papier si l'on peut dire, a en réalité permis la constitution du General Agreement on Tariffs and Trade, donc la constitution du GATT, qui de façon provisoire, sur la base d'un accord provisoire, a commencé à fonctionner en 1947 et qui a continué à fonctionner de manière très très pragmatique par des rounds de négociations informelles avec des résultats qui peuvent se résumer en prenant comme date 1994, c'est-à-dire l'année dans laquelle le GATT a été incorporé dans l'Organisation mondiale du commerce. L'héritière de l'organisation qui n'avait jamais vu le jour. Les résultats sont impressionnants. Il suffit de penser que les droits de douane sont passés de 1947, une moyenne de 45%, moyenne pays marchandises, à 3% de 1994. Cela montre bien quel a été l'effet formidable de ces rounds de négociation. Très tôt, les parties contractantes du GATT se sont rendues compte qu'ils avaient besoin d'un règlement des différends. Et c'est donc très tôt qu'ils se sont donnés, là aussi de façon très pragmatique, par des panels, un système de règlement des différends assez flexible qui s'adaptait bien aux exigences du commerce international. Et c'est lorsque l'Organisation mondiale du commerce est née qu'il y a eu une espèce d'institutionnalisation. De ce règlement des différends dans un système plus complet, plus perfectionné, qui prévoit aussi, comme vous le savez, un body of appeal et qui crée vraiment de la jurisprudence, dans un sens étymologique, si l'on peut dire. Je n'entrerai pas dans la question s'il s'agit vraiment d'une juridiction de caractère judiciaire, ce dont je ne suis pas convaincue, mais c'est de la jurisprudence dans ce sens qu'elle dit le droit. Le droit du commerce international sort maintenant de la quantité d'arrêts, si l'on peut les appeler comme ça, qui sortent des panels et surtout du body of appeal, qui sont en train donc de créer une base importante à ce droit du commerce. C'est un droit du commerce fragmentaire, qui présente encore plusieurs problèmes. Il suffit de penser au droit à l'environnement, qui n'est pas encore tout à fait certain s'il appartient ou non aux règles du commerce international. Donc, ce premier échec s'est traduit dans une sorte de façon, comme je vous disais, probablement inattendue, en un grand succès, plusieurs années après. Et un autre échec devait marquer une phase successive. La nécessité pour le développement des investissements directs dans les pays s'est mise à l'évidence très vite. C'est-à-dire dans ces pays, dans certains pays, même dans les pays européens qui avaient subi les problèmes de la guerre, mais en particulier dans les pays de nouvelle indépendance, et il n'y avait pas de ressources suffisantes pour garantir le développement. Donc ces investissements qui étaient nécessaires pour le développement auraient demandé des règles. Et le premier traité à ce sujet, un traité de 1959 entre l'Allemagne et le Pakistan, qui a créé des règles permettant la promotion de ces investissements. Promotion en même temps protection. Promotion parce qu'il faut bien entendu des règles pour que les investisseurs d'un pays étranger puissent intervenir dans un autre pays. Et protection parce qu'il faut que ces investisseurs étrangers puissent se trouver dans le pays d'accueil une certaine stabilité face aux risques éventuels de caractère social, économique et surtout d'instabilité politique. L'OCDE, qui est une organisation limitée, puisqu'elle n'avait à l'époque que 20 États, elle en a 30 aujourd'hui, mais qui se pose au contraire à un grand but, c'est le but du développement global, a donc décidé de créer un accord multilatéral pour favoriser ces échanges. Et cet accord a été élaboré en 1967, là encore un échec, je vous le disais, cet accord n'a été jamais approuvé. Il n'a jamais été approuvé parce que, en cette année, en 1967, les pays se sont montrés très soucieux vers ceux qui, à l'époque, pouvaient être vus comme le nouvel ordre international économique. Et en particulier, une grande partie de pays voyait dans cet accord un contraste avec la charte des Nations Unies sur la propriété des ressources naturelles par les pays. Donc, échec. Et apparemment, donc, une deuxième fois, les organisations internationales n'avaient pas réussi à mettre en place des règles qui puissent fournir la sécurité juridique des investissements. Eh bien, une fois encore, les nécessités des opérateurs économiques qui correspondaient aux nécessités des pays en voie de développement ont transformé cet échec en un grand succès. C'est-à-dire que ce traité qui n'est jamais entré en vigueur a servi de base pour la création d'un réseau informel, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un réseau, c'est simplement une quantité de traités bilatéraux qui en reprennent le contenu sur un plan bilatéral. Il y a à l'époque actuelle plus de 2000 de ce traité. Le dernier chiffre formel qu'on a est un chiffre fourni par le rapport de la CNUSED sur le commerce et le développement en 2003. Ces traités étaient en nombre de 2181. Ce compte n'a pas été refait, j'ai vérifié encore en 2007, on se réfère à ce chiffre, mais on peut imaginer qu'ils peuvent monter peut-être maintenant à 2500, parce que commence à y avoir des traités non seulement nord-sud, mais aussi des traités sud-sud. C'est-à-dire, le réseau est vraiment en train de monter d'une façon exponentielle. Et donc l'OCDE s'est sentie encouragée. Elle a dit, bon, reprenons donc le travail vers un accord multilatéral sur les investissements. Peut-être le moment est venu. Et de 1995 à 1998, l'OCDE a donc travaillé, paraît-il, ce qu'on dit en secret, à cet accord. Cet accord multilatéral sur les investissements, cependant, a été abandonné. Il a été abandonné sous la poussée de celle qu'on peut appeler la société civile, qui a découvert ces négociations secrètes, enfin la description qu'on donne Par exemple, le monde diplomatique est très coloré. Il a découvert donc ces négociations secrètes et a fait des manifestations. Des manifestations importantes qui ont eu lieu lors des réunions de l'OCDE et qui ont protesté contre cet accord dont on disait qu'il passerait du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes au droit des investisseurs à disposer des peuples. Donc l'accord était abandonné, il a été maintenant repris au sein de l'OMC, paraît-il, sans plus de succès. Que peut-on tirer comme conclusion de cette situation? Les États ont besoin des investissements. Ils sont donc prêts à s'engager vis-à-vis des États, des autres États, mais seulement d'une manière bilatérale. L'engagement sur un plan multilatéral est probablement vu comme plus difficile, plus contraignant. Peut-être ils considèrent qu'en s'engageant sur un plan multilatéral, ils renonceraient à une partie de leur souveraineté. C'est plus facile peut-être d'accepter de renoncer quand il y a de l'autre côté une seule partie plutôt que de renoncer à ses prérogatives de façon multilatérale. Ça, c'est ce qu'on peut imaginer. Mais il faut ajouter que, et sur le plan de la sécurité juridique, cela a revêt une importance considérable, il faut souligner que cet essor de traités bilatéraux a été encouragé par une convention promue par la Banque mondiale, la convention de Washington de 1965, qui a créé le centre, le CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, CIRDI en français, ICSID en anglais, qui compte maintenant 143 États membres. Grâce à ce centre, les investissements peuvent compter maintenant sur une solution des litiges de nature arbitrale, une solution donc qui permet aux privés, aux investisseurs privés, d'appeler devant ce tribunal l'État. Bien entendu, nous comprenons que c'est là une circonstance très très favorable. Et l'essor de ce centre est dû aussi au fait que les tribunaux peuvent juger de leurs propres compétences, ce qui a porté ces tribunaux à élargir de façon remarquable leurs compétences. La compétence se base en effet sur plusieurs conditions. La première condition est que l'État et la partie privée doivent avoir consenti à la mise en place du tribunal. Or, depuis 1988, un arrêt très connu qui concernait l'affaire dite Pyramide, il s'agissait d'une affaire opposant le club méditerranéen à l'Égypte. Le club méditerranéen avait conclu avec l'Égypte un contrat qui permettait la construction d'un centre méditerranéen en face des pyramides. Mais la question est très intéressante, mais je l'évoque en passant simplement pour dire que l'Égypte n'avait pas consenti à aller devant le tribunal arbitral. Mais le tribunal a considéré qu'étant donné que la loi égyptienne de promotion des investissements contenait une affirmation selon laquelle l'Égypte aurait consenti à soumettre à arbitrage les différends concernant les investissements, les arbitres ont donc considéré que le consentement de l'État avait été donné par la loi et que donc il suffisait du consentement du privé pour qu'il y ait en effet compétence des arbitres. Quelques années après, pas beaucoup, en 1990, un autre tribunal arbitral a basé sa compétence, cette fois non sur une loi, mais sur un traité bilatéral. Le traité bilatéral prévoyait l'arbitrage. La partie privée avait demandé l'arbitrage. On a considéré que le consentement existait. Est-ce que c'est légitime? On peut en douter, mais c'est sûr que cela a augmenté beaucoup le nombre d'arbitrages possibles. Maintenant, il paraît que sur les comptes qui ont été faits assez récemment, que c'est un pourcentage très important, plus de la moitié des arbitrages qui sont basés donc sur une loi ou sur un traité et non sur une clause compromissoire ou sur un compromis. Et évidemment, les États ont accepté cette interprétation. Il n'y a pas eu d'opposition à cette interprétation parce que justement, elle va dans le sens de conforter les investisseurs étrangers. Autre notion qui a contribué à l'essor de ces arbitrages, c'est la notion d'investissement. Là aussi, la notion d'investissement devrait être très importante parce que c'est elle qui donne la compétence par matière du tribunal. Le tribunal n'est compétent qu'en matière d'investissement. Or, la Convention de Washington ne donne pas de définition du terme investissement. Et donc, en l'absence d'une définition, on s'est demandé qu'est-ce que c'était qu'un investissement. Et là aussi, les tribunaux ont été très larges. Et ils ont considéré investissement beaucoup, beaucoup de transactions qui, peut-être, à la rigueur, n'auraient pas été à être incluses dans cette notion. Est-ce que le traité a oublié de faire la définition? Est-ce qu'il y a eu une difficulté dans la négociation? Il est probable, vu le résultat obtenu, il est probable que cet oubli a plutôt été une tactique pour permettre justement à ce tribunal de devenir ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire un système qui permet de soumettre à arbitrage international entre un État et un privé quasiment toutes les transactions internationales. Il est devenu le système, le juge ordinaire des transactions économiques internationales. Nous soulignons je crois que ce qui est intéressant de ces questions, c'est surtout que pour atteindre la sécurité juridique, les États et les opérateurs ont utilisé des systèmes très pragmatiques. Alors que les négociations plus traditionnelles avaient échoué, c'est avec des pratiques qu'ils ont atteint les mêmes buts. Mais il faut signaler que, au contraire, pour ce qui concerne le règlement des différends, les États se sont montrés très très ouverts. Parce que, je souligne encore que la Convention de Washington a 143 parties contrastantes, ce qui est vraiment beaucoup, sur un total de 190 États, plus ou moins. Bien, venons maintenant aux aspects privés de ces transactions. Du moment que l'environnement juridique est plus ou moins stable, du moment que l'environnement légal permet d'imaginer aux opérateurs de pouvoir intervenir dans certains pays, c'est donc la transaction elle-même qui doit être réglementée. Là, les problèmes qui se posent sont des problèmes que j'ai évoqués au début de cette intervention, c'est-à-dire les problèmes de connaissance du droit éventuellement étranger, les problèmes de repérer les sources, d'analyser aussi les coûts éventuels de ces opérations au point de vue légal. Et les réponses classiques sont les réponses données par le droit international privé et par le droit uniforme. Le droit international privé permet de donner une solution à tous ces problèmes. Il est là pour ça. Donc, par l'intermédiaire des règles de conflit et des critères de rattachement, il permet de localiser, par sa méthode la plus classique, la plus traditionnelle, de localiser une certaine espèce juridique dans un système particulier. À côté, le droit uniforme, comme nous le savons bien, essaie de résoudre à la racine le problème en posant des règles unifiées qui sont consacrées à un certain domaine du droit. Et les deux peuvent même fonctionner ensemble si l'on a besoin. Mais ces réponses classiques présentent des problèmes. Voyons d'abord les problèmes posés par le droit international privé. Nous savons tous que le droit international privé permet dans quasiment tous les systèmes juridiques, le choix de la loi applicable par les parties. C'est le principe de l'autonomie de la volonté qui, en matière de droit international privé, s'étend à toutes les obligations contractuelles et qui est d'ailleurs consacré aussi dans les conventions internationales. Il suffit de citer la convention de l'AE en matière de vente. Elle a très peu de ratifications, mais c'est la seule convention de droit international privé sur la vente qui est une tendance universelle qui existe. Et là, par exemple, la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Là aussi, la loi choisie par les parties sur n'importe quel système juridique est valable. Et donc, les parties ont un instrument assez efficace. Pourquoi cet instrument n'est pas suffisant? Eh bien, souvent les parties ne l'utilisent pas. Souvent, il manque de choix. Il y a toute une série de contrats qui sont des contrats informels, qui n'ont pas de forme écrite. Et donc, dans ces contrats-là, ça peut être assez difficile de reconstruire la volonté des parties quant à la loi applicable. Mais il faut bien constater que dans des contrats, souvent même des contrats importants, la clause n'est pas insérée. Il peut s'agir d'un oubli, il peut s'agir aussi de la difficulté de se mettre d'accord, ou d'ajouter des négociations difficiles sur une discussion qui pourrait être déjà difficile sur le fond. Certaines solutions sont même curieuses, j'en citerai une. Dans le contrat qui avait comme objet la construction du tunnel sous la Manche, les parties avaient convenu de l'applicabilité du tronc commun des droits français et anglais. Alors, il est à douter qu'il existe un tronc commun. Un tronc commun existe toujours, mais il est à douter que ce tronc commun puisse être suffisant pour régler tous les problèmes. On imagine qu'il doit s'agir d'un système incomplet. En tout cas, voilà la solution trouvée par les avocats de ces deux parties, dans un contrat immense, comme vous l'imaginez. Donc, ce qui montre bien que le choix de la loi applicable est une question théoriquement facile, mais au point de vue pratique, il soulève pas mal de difficultés. Ajoutons à ce fait que le choix du droit applicable par les parties peut quand même rencontrer des limites, c'est-à-dire que tout le monde sait que il y a toujours la réserve de l'ordre public, il y a la catégorie qui remonte à environ 50 ans, mais qui maintenant a été codifiée dans les conventions internationales, dans plusieurs législations nationales, notamment dans la législation italienne, des normes d'application nécessaires, celles qui sont appelées aussi les normes internationalement impératives, qui peuvent donc empêcher à la loi choisie par les parties de s'épanouir complètement. Et un autre problème est celui du fait qu'on ne connaîtra les résultats de ces limites que si on saura quel sera le juge compétent. Et là encore, les parties peuvent le choisir. Ils peuvent choisir le juge compétent. Mais le risque est que la recherche de l'ordre public ou les règles d'application nécessaires ne réapparaissent au moment de l'exécution du jugement. Car la recherche de l'ordre public empêche aussi la reconnaissance des jugements. Solution. Pour ce qui concerne le règlement des différends, le recours à l'arbitrage met à l'abri de certains de ces problèmes. D'abord, il permet de délocaliser complètement le contrat, c'est-à-dire de le soustraire aux juridictions étatiques. Et il a des avantages qui sont souvent énoncés dans sa rapidité, dans la possibilité de faire recours à des arbitres qui connaissent bien un certain secteur considéré, surtout quand il s'agit de questions techniques ou appartenant à des secteurs commerciaux bien précis. Sa confidentialité, alors que bien entendu les tribunaux sont publics. Mais une des raisons qui sûrement encourage à choisir l'arbitrage est le fait que les sentences arbitrales sont reconnues plus facilement que les sentences étrangères. Pour ce qui concerne les décisions étrangères, chaque système a bien entendu des règles sur la reconnaissance qui prévoient des contrôles parfois complexes, parfois plus simples, cela dépend des pays. Mais on n'a jamais pu mettre en place un système à tendance universelle de reconnaissance des jugements. Des tentatives ont été faites, notamment au sein de la Convention de la Haye, de la Conférence de la Haye, mais elles ont été abandonnées, vu l'impossibilité d'avoir un accord, même minimal, sur ce point. On a même considéré qu'on avait perdu du temps à un exercice vain. Alors que pour ce qui concerne l'arbitrage, c'est depuis 1958 que nous avons une convention, la Convention de New York, conclue sous l'égide des Nations Unies, et qui a maintenant, je crois, 145 États contractants, et depuis que la CNUTSI a créé un lien avec un système où on voit des cartes géographiques avec les conventions, on voit dans cette carte, les pays qui ont ratifié sont verts, les pays qui n'ont pas ratifié sont gris, que le planisphère est quasiment vert, étant donné que les pays qui n'ont pas ratifié sont souvent des petites îles. Alors, bien entendu, elles sont importantes, c'est des États souverains, mais on peut imaginer donc que cette convention s'applique quasiment au monde entier, sauf, il faut dire, quelques États africains, ceux qui entrent un peu moins, mais peu, hein, peu quand même. Donc un système de reconnaissance qui, cependant, a des règles. La reconnaissance est soumise à des règles. Mais on remarque, ce sont des remarques qui sont faites sur la jurisprudence de beaucoup de pays, que les juges nationaux sont moins sévères envers la reconnaissance des décisions arbitrales qu'il ne serait envers les décisions nationales. Philippe Fouchard a, dans un écrit qui a été malheureusement un de ses derniers, énoncé ces trois passages. Les pays sont passés du soupçon à la coopération, à la promotion de l'arbitrage. Et ceci se remarque aussi, par exemple, dans un pays comme l'Italie. C'est assez remarquable. Je sais que c'est arrivé dans d'autres pays, sûrement en France, et j'imagine dans d'autres pays aussi. Ceci se remarque même au point de vue de la clause compromissoire. La clause compromissoire est en effet interprétée avec une largeur remarquable. Par exemple, en Italie, un arrêt célèbre de la Cour de cassation a reconnu en 1982, donc il y a 25 ans, que un contrat avec écrit en marge à la plume arbitration London if necessary était une clause arbitrale suffisante. La Cour de cassation a affirmé que les usages des parties appartenant à un secteur professionnel donné, dans ce cas c'était le commerce du sucre, et d'autre part les exigences que les transactions internationales puissent se dérouler sans entrave, provoquées par un excessif formalisme, incompatible avec les conditions du déroulement du commerce international, lui imposaient d'accepter comme valable cette clause. Elle a déroulé sa motivation en expliquant que les parties sont souvent loin l'une de l'autre, qu'elles utilisent des langues différentes, qu'elles se basent sur des systèmes juridiques différents, et qu'un formalisme excessif porterait à ne considérer valable quasiment rien. Je dois ajouter que la consécration de l'arbitrage est arrivée dans mon pays par la cour la plus éminente, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. On avait soulevé un problème de compatibilité du recours à l'arbitrage avec le droit que la Constitution italienne garantit à tous d'agir en justice. Et la Cour constitutionnelle a répondu que le législateur, dans le cadre d'une tendance imposante à la délocalisation de la juridiction, qui s'est manifesté aussi pour des raisons de concurrence commerciale dans les usages du commerce international, dans les normes des accords internationaux et dans les ordres juridiques supranationaux, a entendu explicitement et légitimement favoriser une explication plus libre de l'autonomie privée dans le choix de la juridiction. Donc, non seulement elle a refusé de considérer inconstitutionnelle la possibilité du recours à l'arbitrage, mais a même utilisé des mots qui montrent bien une faveur particulière envers cet instrument. Donc, délocalisation possible sur le plan de la juridiction et délocalisation aussi sur le plan du droit applicable. Car, nous le savons bien, on a constaté l'émergence d'usages du commerce international auxquels on a donné l'appellation de nouvelle lex mercatoria. Cette découverte, car on peut parler d'une découverte, à plusieurs pères. Moi, j'aime bien penser qu'un des pères soit Philippe Kahn, qui travaille à Dijon et qui a fait sa thèse qu'il a terminée en 1961 sur la vente internationale, et dont le patron de thèse, Goldman, lui avait justement suggéré de suivre ses pistes parce qu'il avait une idée que quelque chose de particulier s'est passé dans le droit applicable aux transactions internationales. Effectivement, on a remarqué que les opérateurs du commerce international se donnaient eux-mêmes leurs règles, au départ d'usage, contrat type, avec le support des corporations de certains commerces particuliers, le commerce des grains, le commerce du sucre que j'ai déjà évoqué, mais aussi le commerce de gaz. Des secteurs particuliers s'étaient donné des règles particulières, des règles qui servaient bien la cause de leurs transactions et qui se sont peu à peu répandues. Or, la lex mercatoria a été d'abord mise en doute dans son existence même. Maintenant, plus personne ne le met en doute, mais la querelle ne s'arrête pas, car si on accepte que la lex mercatoria existe, en revanche, des doutes continuent entre les écoles des mercatoristes, comme on les appelle, et des anti-mercatoristes, quant à sa légitimité, quant à à son caractère complet, et quant aussi au fait qu'il ne s'agirait, après tout, selon les anti-mercatoristes, qu'un exercice de l'autonomie de la volonté. Soulignons au passage que la lex mercatoria se développe, n'est pas c'est une méthode, n'est pas encore unique. C'est ici d'ailleurs qu'on a parlé de l'émergence de la lex electronica. Et donc, l'ex qui s'adapterait à un secteur particulier. Alors, ces différents corps juridiques, est-ce qu'ils sont simplement, vraiment, manifestations de l'autonomie de la volonté? Est-ce qu'ils rentrent par la fenêtre ceux qui ont été sortis par la porte? Est-ce que finalement, ce n'est qu'un exercice d'autonomie de la volonté? Eh bien, personnellement, j'en doute, pour une raison. Parce que, du moins dans l'analyse que j'ai faite il y a quelques années, et qui concernait la pratique italienne, mais les résultats, je crois, sont les mêmes à peu près dans toutes les juridictions, on remarque que si c'était simplement l'exercice de l'autonomie de la volonté, elle devrait rencontrer comme limite les règles impératives. C'est-à-dire, l'autonomie de la volonté ne pourrait s'épanouir qu'à l'intérieur du cadre de la loi applicable, quelle qu'elle soit, choisie par les parties ou trouvée sur la base des règles de loi internationale privée, et que donc elle trouverait la limite des règles impératives du pays compétent. Alors que ce n'est pas comme ça. Exemple plus classique, le contrat autonome de garantie. En Italie, comme d'ailleurs en France, je ne sais pas au Canada, le contrat autonome de garantie ne pouvait pas s'imaginer. La garantie était un accessoire d'un droit. Donc, une garantie autonome aurait été sans cause, et dans un pays où l'absence de cause provoque la nullité, aurait été nulle. Or, Au contraire, les tribunaux italiens ont admis le contrat au minimum de garantie, en justifiant l'exigence d'accepter ces contrats qui s'étaient développés dans la pratique du commerce international. Ne pas les admettre aurait signifié mettre les opérateurs italiens en difficulté vis-à-vis des partenaires des autres pays. Autre exemple, les contrats d'engineering. L'engineering heurte en Italie contre la loi qui prévoit que les prestations professionnelles doivent être personnelles. Il doit y avoir une responsabilité personnelle du professionnel qui doit être le responsable de la prestation, alors que dans le contrat d'engineering, il y a un groupe de personnes. Là aussi, la jurisprudence italienne a accepté ce contrat. Il y en a d'autres, le franchising, etc. On a même affirmé qu'en garder les noms exotiques, si l'on peut dire, de ces nouveaux types de contrats, pour que les opérateurs internes du droit, et en particulier les magistrats ou les autres opérateurs, aient tout de suite l'impression que c'était des pratiques qui venaient du commerce international, qui donc devaient recevoir un traitement particulier. Et je me suis donc dit que si cette lex mercatoria, ces usages, ces nouveaux contrats sont considérés pouvoir heurter même contre les règles impératives, ce n'est donc pas simplement une explication de l'autonomie de la volonté, c'est plutôt une explication d'une méthode que je considère une méthode de droit international privé, donc une méthode qui permet de donner la solution à des situations qui présentent des éléments d'internationalité. Le professeur Bonnel, dans sa thèse, en a donné une définition que je trouve très efficace, règle objective du commerce international. Donc, au lieu d'aller chercher avec le système classique des conflits de loi, la solution dans un certain ordre juridique, on élabore des règles particulières qui s'adaptent aux transactions internationales. Face à ces nouveautés sur le plan juridique, qu'ont fait les États? Eh bien, d'un côté, ils ont procédé à des réformes nationales, souvent dans la direction indiquée par les pratiques du commerce international. D'autre part, ils ont quelquefois, pas souvent, mais enfin assez souvent quand même, promu des œuvres d'harmonisation du droit relatif aux transactions internationales. Là, vous savez que des institutions existent, qu'ils ont été créées exactement à cet effet. Il y a d'abord des institutions, si l'on peut dire, corporatives, celles que j'ai évoquées, qui procèdent à l'élaboration de contrats types dans certains secteurs du commerce. Il y a la Chambre du commerce international, qui est une organisation du même type, c'est-à-dire corporative, puisqu'elle représente les intérêts des différentes chambres de commerce des différents pays, mais qui a une compétence générale et qui a procédé à l'élaboration de nombreux codes d'autodiscipline et qui a aussi élaboré un instrument qui a été considéré extrêmement utile dans les transactions internationales, c'est-à-dire les Incoterms, qui ont reçu, comme on le sait, l'aval de la CNUSSI et plus en général de l'Assemblée générale des Nations Unies. Sur le plan des organisations internationales gouvernementales, UNIDROIT est né en 1926 comme organe auxiliaire de la Société des Nations, justement avec le but de procéder à l'unification du droit privé. Le statut d'UNIDROIT ne limite aucunement les matières d'intervention d'UNIDROIT, cependant, elle sait, et bien qu'elle ait fait des études et même quelques résultats dans d'autres sujets, elle s'est spécialisée dans le droit du commerce international. À partir des premières conventions de 1931, la convention sur la lettre de change et la convention sur le chèque, jusqu'à la toute récente, encore en train d'élaboration, convention en matière de titres intermédiaires, en passant par la réglementation, par exemple, de certains contrats de transport. Les travaux que Unidroit a consacrés à la vente ont duré très longtemps, mais ce n'est pas Unidroit qui a terminé ces travaux. Les a, si on peut dire, passé la main à la CNUTSI, qui avait été créée entre-temps, et qui a obtenu ce résultat important qu'est la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises. Suite à l'adoption de cette convention, convention qui ne concerne que la vente, qui ne concerne que la vente de marchandises, qui a un caractère supplétif et qui laisse plusieurs questions relatives au contrat lui-même en dehors de son champ d'application, Unidroit, de façon, là on peut dire encore, permettez-moi d'utiliser encore cette expression très pragmatique, a décidé d'inscrire le projet des principes à son ordre du jour. C'est vraiment après la conclusion de la convention sur la vente que les principes ont été imaginés. Le conseil de direction Unidroit a pensé que s'il avait été si difficile, 50 ans de travaux, pour arriver à un instrument lui-même de caractère supplétif, il était mieux de penser à quelque chose d'un peu différent. Et c'est comme ça que les principes ont été élaborés, c'est-à-dire avec l'intention d'avoir une application à tous les contrats commerciaux, de concerner tous les aspects du contrat, mais de ne pas être contraignant. L'absence d'obligatoireté a permis d'éviter certains compromis, a permis d'essayer de trouver celle qui était considérée, dans certains cas, la meilleure solution, tout en étant, bien entendu, très attaché au repérage des usages du commerce international, au travail de droit comparé pour identifier les solutions qui auraient pu être acceptées par la pratique. Et comme nous le savons, ces principes, d'abord l'édition de 1994, ensuite celle de 2004, une autre est en cours, qui verra le jour probablement en 2009 ou en 2010, il ne s'agit pas de modifier, mais seulement d'ajout à la première version. Eh bien, ces principes sont appliqués par les tribunaux arbitraux, mais même par certaines juridictions nationales. Ils sont considérés un bon instrument qui peut servir d'exemple pour des législations nationales ou qui peuvent être pris comme exemple dans les contrats. Les parties peuvent se référer aux principes ou bien recopier certaines de ces clauses à l'intérieur de ces contrats. Là aussi, les principes ont reçu cette année l'aval de la CNUTSI et l'Assemblée générale va se prononcer sur cet aspect dans quelques jours à New York. La harmonisation du droit présente des avantages. Les avantages, ceux qui sont en faveur de ce mouvement d'harmonisation montrent qu'ils servent aux exigences justement de sécurité juridique, à la prévisibilité du contenu des obligations, et que, étant donné leur nature internationale, on s'attend qu'ils soient interprétés de façon uniforme. Cependant, contre le mouvement d'harmonisation se lèvent plusieurs voix. On souligne la complexité de ces opérations, leur coût, la longueur de ces travaux. Il faut bien admettre, quand on parle de 50 ans pour arriver à la convention de la vente, que c'est vrai. En plus, on considère... Ah voilà, il me manque une pause. Attendez. En plus, on considère que les succès sont peu nombreux et que souvent les conventions, sauf justement le cas de la vente, n'ont que très peu de ratifications. Donc on dit beaucoup de travail pour des résultats assez maigres. On ajoute, ce qui est plus fondamental, que l'harmonisation ne serait même pas nécessaire, que finalement les problèmes des différences entre les législations est vraiment exagéré, et que non seulement elle serait pas nécessaire, mais on ajoute même qu'elle aurait des aspects négatifs. Quel serait l'aspect négatif de la négociation? Ce sont des débats qui sont en cours et qui prennent beaucoup de sœurs dans ce temps-là. Eh bien, on dit que harmoniser le droit signifie aplatir les différences, perdre la richesse des différentes civilisations, mettre à côté les traditions sociales, culturelles. Or, on ajoute que les législations qui présentent des différences entre elles sont, en si l'on peut dire, en concurrence. Et que donc, cela permettrait de choisir le droit, comme on choisit une marchandise. Donc, ça serait la compétition entre produits légaux et non seulement la compétition entre produits tout court. Que peut-on répondre à ces objections? Il est probablement vrai que l'œuvre d'harmonisation est complexe. Quant à ses coûts, je ne vous citerai pas le budget d'Unitroit, mais les coûts sont malheureusement pour nous assez petits. Donc, je refuse cette idée que l'harmonisation soit coûteuse, parce que, franchement, ce n'est pas vrai. C'est vrai plutôt qu'elle rencontre des difficultés. Mais est-ce que, justement, ces difficultés ne sont pas provoquées par ce genre de critiques que l'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas des mouvements contre l'harmonisation? Car quand on parle de concurrence des ordres juridiques, comme s'il s'agissait d'une concurrence de marchandises, on se met dans une direction qui peut être vertueuse ou qui peut présenter des risques. C'est peut-être vrai que certaines différences peuvent produire des résultats positifs. Par exemple, si l'on pense aux tracts, qui est maintenant imité dans certains pays, voilà un produit qui peut être exporté. Mais alors, plutôt d'un produit, disons un modèle, qui peut être imité dans d'autres pays, et cela, c'est une des fonctions pour laquelle on fait du droit comparé. C'est normal, c'est quelque chose qui fait partie de l'expérience. Mais quand on pense à la concurrence, on fait surtout l'exemple du droit des sociétés. Dans l'Union européenne, à la suite de 3 allées célèbres de la Cour de justice des communautés européennes, il est maintenant possible de s'installer dans n'importe quel pays européen et de choisir, grâce aux 2 principes du droit d'établissement et de la reconnaissance mutuelle, et de choisir quel État nous présente le droit qui s'adapte le mieux à nos exigences. C'est l'effet Delaware des États-Unis qu'on connaît bien. Et dans d'autres domaines, cela serait possible. Mais est-ce que vraiment on choisit le produit meilleur? Ou bien, quelquefois, on se limite à choisir le droit plus lâche, le droit moins contraignant, le droit qui pose moins de protection vis-à-vis des intérêts de l'autre partie. Car si, par exemple, c'est très commode d'ouvrir une société avec un très petit capital social, il est vrai aussi qu'on manque de garanties pour les créditeurs de cette façon. Donc, le droit a besoin d'équilibre. C'est la race to the bottom qu'on évoque comme risque de cette concurrence entre les ordres juridiques. Et donc, en faveur de l'harmonisation, on peut dire que, tout d'abord, l'harmonisation vise surtout les transactions internationales. Donc, elle ne porte pas atteinte à la richesse des ordres juridiques, ni aux traditions, parce que il ne s'impose, il ne pense à remplacer les ordres juridiques internes que lorsque les transactions elles-mêmes ou les problèmes qu'ils visent sont des problèmes par nature internationaux. Un exemple d'une harmonisation qui a remplacé les règles internes est celle en matière de lettres de change et de chèques, mais parce que ces instruments circulent par nature et donc par nature, ils demandent d'avoir un droit harmonisé. C'est la même chose qui est en cours maintenant avec la Convention sur les sécurités sur les titres intermédiaires. Les titres intermédiaires circulent. Ils circulent à une rapidité effarante. On ne sait pas s'ils sont en train de circuler à l'intérieur d'un système national ou à l'intérieur d'un système international. Il est impossible de le dire, puisqu'ils sont transférés par des données des enregistrements informatiques. Et donc, le droit harmonisé ne peut être qu'un droit qui remplace les droits nationaux, puisqu'on ne peut pas faire la différence entre les transactions internes et les transactions internationales, qui n'est même pas imaginable, parce qu'elle est impossible à vérifier dans la pratique. Donc, le droit harmonisé, en réalité, vise les transactions internationales, et on ne voit pas de difficulté à l'accepter de ce point de vue-là. J'ajouterais que les positions que les États ont recouvertes vis-à-vis des transactions internationales sont qu'ils ont accepté les règles élaborées par les opérateurs économiques. Nous avons vu que les États tendent à accepter ces règles et on s'est même demandé si on ne pourrait pas parler pour les transactions internationales d'un droit de nouveau type, un droit qui serait un tiers droit, qui ne serait donc plus un droit national et même pas un droit international, mais un droit qui tirerait ses sources uniquement du commerce et des opérateurs eux-mêmes. Un droit transnational au sens propre. Quelqu'un l'a même défini un droit anational. Personnellement, je n'en suis pas convaincue. Sans les importantes obligations que les États ont décidé d'assumer, je cite encore, par exemple, la Convention sur 10 sur les arbitrages, la Convention de New York sur les arbitrages entre privés. Sans les acceptations de grands systèmes multilatéraux et sans les réseaux de traités bilatéraux que j'ai évoqués, sans donc une intervention étatique, il serait impensable d'imaginer aujourd'hui le droit des transactions internationales. C'est que encore, les opérateurs économiques ont besoin du bras de l'État pour pouvoir fonctionner. La sécurité juridique est encore assurée par l'État. L'État, cependant, a effectué un recul par rapport à sa fonction. Au lieu, c'est une hypothèse, au lieu de fonctionner comme un législateur, dans ces matières, il fonctionne plutôt comme un régulateur. Il se limite à enregistrer les résultats qui ont été atteints dans d'autres milieux et à leur donner sa propre force contraignante. Ils acceptent de le faire parce qu'ils y sont obligés. Même les États les plus puissants sont obligés de participer au commerce international avec ces règles. Ceci est d'autant plus vrai, bien entendu, pour les États moins développés. Mais c'est vrai aussi pour les grandes puissances. Et ils acceptent de s'engager sur un plan multilatéral, on l'a bien vu, très rarement, et surtout avec des instruments de procédure, les conventions que j'ai évoquées. De ce point de vue, l'OMC constitue un pas en avant important. On ne sait pas encore exactement comment il va avancer. Et il faut aussi enregistrer que ce résultat ne nous satisfait pas, du moins pour ce qui nous concerne, complètement. Car si on peut dire qu'à l'époque actuelle, on peut compter sur un cadre relatif de stabilité juridique, avec les règles que j'ai évoquées, tant sur le plan de l'environnement juridique que l'on peut définir macroéconomique que sur le plan des transactions privées, il faut bien se dire que ce n'est peut-être pas une sécurité juridique complète qu'on l'a atteint. C'est une sécurité juridique plutôt relative. Parce que face aux exigences des opérateurs internationaux, qui correspondent très souvent aussi aux exigences de l'économie dans le sens le plus complet, il y a celle qu'à un colloque de Dijon, on appelait la résistance des valeurs humaines. évoquant simplement les droits de l'homme et les droits de l'environnement. Il faut bien admettre, comme l'a fait un auteur avec amertume, que certains États ne sont compétitifs que grâce au fait qu'ils acceptent d'exploiter l'homme et la nature. C'est la seule compétitivité que certains États peuvent offrir. Et les règles qu'on vient d'indiquer n'empêchent pas que cela se produise. Pensons aussi que, par exemple, à l'intérieur de l'OMC, les médicaments, toute l'histoire des royalties pour les médicaments, est vue comme une dérogation aux règles du commerce et non comme un droit à la santé. C'est ce qui s'est vérifié quand le Brésil a demandé de pouvoir disposer des médicaments contre le sida sans devoir payer les frais très importants qui n'étaient pas en mesure de payer. Donc, cette sécurité juridique, insécurité que je répète est relative parce qu'elle ne reflète pas tous les intérêts qui sont en cause. Or, en conclusion, il faut bien admettre que l'élévation du niveau de vie devrait profiter à tout le monde. Mais on constate qu'il profite, que cette élévation du niveau de vie, qui est sûrement en cours et qui a permis à beaucoup de pays d'atteindre des niveaux je ne dirais pas de richesse, mais en tout cas de bien-être, qui sont très importants et qui sont dus sûrement à ces mouvements de que nous appelons globalisation en un seul mot, ne profitent pas à tout le monde de la même manière et obligent d'autre part à un certain recul des droits dans toutes les parties du monde. Je voudrais terminer par une expérience qui va à contre-courant. C'est l'expérience des pays OASA. Nous avons vu que la sécurité juridique des transactions internationales s'est faite sur la poussée des opérateurs qui en avaient besoin et des États qui ont accepté, si l'on peut dire, de fonctionner comme régulateurs de ces transactions. Or, les pays OASA, c'est-à-dire les pays de la zone franc, se sont dit que peut-être ils avaient besoin de plus de sécurité juridique pour attraire les investissements et le commerce. Donc ils sont restés jusqu'à présent assez à l'écart. Ils se sont donc donné une organisation qui s'appelle justement Organisation pour l'harmonisation du droit en Afrique. Et ils ont déjà obtenu quelques résultats. Ils se sont adressés à UNIDROIT pour avoir un droit de contrat de bonne qualité. Il y aura notamment un colloque dans quelques semaines à Ouagadougou sur ce droit des contrats OASA. Or, malheureusement, pour rendre attractif un pays, la sécurité juridique est nécessaire mais n'est pas suffisante. Cependant, cet expériment, j'espère qu'il aura du succès parce que ces pays ont pris les choses dans le bon sens, c'est-à-dire ils se sont penchés dans la bonne direction. L'harmonisation peut peut-être rétablir l'équilibre qui me paraît en ce moment n'être pas parfait. Et surtout, tenir en compte les intérêts généraux. La preuve que les États, quand ils se réunissent sur un plan multilatéral, obtiennent des résultats équilibrés est dans le fait que les traités non équilibrés, comme par exemple le traité AMI que j'ai cité, n'a pas été accepté. Ce qui montre que dans des enceintes internationales, une certaine vertu s'installe qui permet aux règles injustes de ne pas être acceptées. Permettez-moi de conclure avec les mots d'un comparatiste, René David, qui était à l'époque secrétaire général adjoint de l'UNIDROIT, et qui, face à l'émergence d'un droit forgé par les opérateurs économiques, affirmait en 1967 que les États ne vont abandonner ni leur souveraineté ni leurs prérogatives s'ils ouvrent leurs yeux à la réalité et se préparent à reconstruire le droit international. Il serait temps.
Merci Alessandra pour cet exposé très stimulant. Beaucoup de... de questions ont été abordées. Alors écoutez, je vous rappelle la formule. On va poser quelques questions ici entre nous. Et si vous avez d'autres questions, nous les poserons ou la conversation pourra s'engager autour d'un petit verre de vin auquel je vous invite dans quelques minutes. Alors voilà, est-ce que quelqu'un veut plonger ? Moi je vais plonger, hein, vous êtes le premier, je vais casser la glace et puis vous, je suis certain que quelqu'un va... Alors moi j'ai deux remarques, Alessandra, dans cet exposé vraiment très intéressant. La première a lieu, est liée d'abord à la question de la compétence des arbitres. Notre collègue et ami Fabien Gélina de McGill a fait une étude sur cette question. Il n'est pas le premier, mais enfin il a analysé la question de manière assez intéressante. Et il a noté que souvent dans les arbitrages internationaux, soit des arbitrages CIRDI, des arbitrages même OMC maintenant, etc., que très souvent la compétence des arbitres était très limitée. Mais que les arbitres ont toujours une tendance, comme la plupart des décideurs, à élargir leur champ d'action. Ce qui fait que, par exemple, un exemple sur lequel Gélina Fabien avait travaillé, c'était les noms de domaine. La compétence des arbitres en matière de noms de domaine pour les conflits qui pouvaient opposer un trademark holder, un détenteur de marque de commerce à un détenteur de noms de domaine, la compétence était vraiment très très étroite. Il fallait juger selon un droit national qu'il fallait déterminer, etc. Et il n'existait rien de tel qu'un droit international des marques, parce que c'est contradictoire dans son expression même, puisque les marques, c'est en principe national. Les arbitres ont fait fi de ces restrictions et ont vraiment été très loin dans leur interprétation et dans l'élargissement de leurs compétences. Alors, ça, c'est un problème que les États peuvent rencontrer à un moment donné, je soupçonne. Et on a beau dire que l'arbitrage est intéressant, il n'empêche que finalement, très souvent, il est peut-être dévoyé de son sens original. Les États voulaient peut-être, comme pour l'OMC, que les arbitres se prononcent sur des questions très précises de commerce. C'est pour ça notamment qu'on a voulu éviter qu'on mêle à ces questions-là des questions de droit de la personne, peut-être de droit de l'environnement, etc. Mais rien n'empêcherait les arbitres OMC, par hypothèse, de s'emparer de ces questions, le cas échéant. Alors c'est une première remarque, sinon une première question. La deuxième, c'est une remarque plutôt. On parlait du marché. Au Moyen-Âge, finalement, la lex mercatoria, les leges mercatorum, parce qu'il n'y avait plus qu'une loi marchande, en fait. Finalement, beaucoup, dont Fernand Braudel, ont dit que finalement, ce sont les marchands qui ont commandé la création de l'État moderne, parce qu'ils avaient besoin de règles pour pouvoir fonctionner en Europe. Et on se demande aujourd'hui, avec la globalisation, si justement ce n'est pas encore une fois les marchands qui vont commander, non peut-être pas un État global, mais une énorme activité globale. C'est une petite remarque en passant pour alimenter la conversation, mais je ne vais pas sur l'arbitrage si vous avez des commentaires.
Bien, j'ai lu un article par Ali Benchaneb qui justement trouve que c'est fait exprès. Ah. Lui, il considère que c'est fait exprès, c'est-à-dire que il considère que très souvent, si on lit le texte sur lequel se base l'arbitrage lui-même, on remarque qu'il y a des zones très floues. Alors lui, il avance l'hypothèse que ce soit une tactique. C'est possible. Là, c'est quelque chose d'assez intéressant. En effet, est-ce qu'il y a des oppositions lorsque les arbitres augmentent leurs compétences ?
Alors,
là, par exemple, pour
les noms de domaine, non. C'est parce qu'ils étaient peut-être malins aussi, parce que ça n'a pas atteint ce qui était leur principale, leur principale clientèle, qui étaient les détenteurs de marques de commerce. Parce qu'en général, on sait que le pourcentage en faveur des détenteurs de marques de commerce était très élevé. S'ils avaient attaqué de front les détenteurs de marques de commerce, ils sont représentés, comme on sait, par des grandes sociétés, des grands cabinets, on ne sait pas si... font-ils exprès ? Oui, sans doute, peut-être, mais dans les cas des panels de l'OMC, je sais que d'après ce que j'en sais pour avoir lu un petit peu sur le sujet, que les États étaient très craintifs devant ces panels qui pouvaient à ce moment-là renverser des décisions internes, des mesures prises par l'État, et qu'ils avaient donc pris soin de vraiment to carefully craft, comme on dit, de minutieusement libeller les dispositions attributrices de compétences.
C'est probablement la réaction, oui.
La réaction peut-être à...
Yann.
C'est ça que j'ai trouvé la conférence vraiment très intéressante sur plusieurs plans, effectivement, de réflexion qui resteront pendant quelques temps. J'avais deux observations qui me venaient. D'une part, je fais simplement suite à la petite remarque de Karim, mais qui m'est très intéressante. Je sais que, par exemple, pour la ville de Gand, qui a été au XIIIe, XIVe siècle, un grand centre commercial, la ville de Gand, littéralement, organisait des forces policières sur les routes qui menaient à Champagne. L'intérêt de cela, c'est qu'évidemment les marchands pouvaient alors voyager en sécurité matérielle relative. Question de savoir qui est à l'initiative de ce mouvement. Est-ce que c'est le prince qui perçoit évidemment des droits sur le marché? Est-ce que c'est les marchands qui en demandaient? Le fait est que cette sécurité-là, sans doute, est mieux fournie sur un plan collectif. Alors, qui prend l'initiative? Manifestement, tout le monde y trouvait son compte. De même que une certaine police des fraudes accomplies dans le marché. Hein. Et évidemment, il y avait une justice sur place, les pieds poudrés, les tribunaux de pieds poudrés. Là, c'est l'initiative des marchands. Mais c'est pour dire que quand on doit et quand on cherche à fournir des biens collectifs, est-ce que c'est l'origine de l'État? Il est certain qu'on y trouve son compte. Mais ça, c'est aussi de l'ordre des observations, un peu en marge, comme tu disais très bien. La réflexion que je me suis faite, c'est à propos de votre observation à la suite des trois arrêts, dont Saint-Tros, etc. Et vous évoquez le spectre d'un risque de bottom. Ce qu'il faut comprendre, et là, non, c'est les communistes qui parlent, c'est les degrés de liberté que les acteurs dans le champ auraient à provoquer une telle course spirale infernale. Parce que, évidemment, si vous choisissez, comme vous dites, en matière corporative, tu vois, société anonyme, un droit lâche, qu'est-ce qui n'est pas protégé? Les actionnaires minoritaires, mais ça augmente immédiatement le coût de votre capital. Les créanciers, ça augmente le coût de votre crédit. Vous n'avez pas la liberté de choisir autant que vous voudrez. Mais évidemment, la question que ça amène est la suivante. La concurrence des droits est intéressante dans la mesure où elle met en doute que les États nationaux nécessairement savent, parce que vous dites les acteurs sur pencher des vaches ne savent pas qu'est-ce qui est la meilleure option, on ne peut pas s'assurer qu'ils choisiront de la sorte. Peut-on être assuré que les États-nations, dans leur droit national, choisissent nécessairement les meilleures solutions, même pour leurs propres citoyens? Et là, évidemment, il y a toutes sortes de travaux sur les influences de groupes de pression, etc. La concurrence des droits permet d'étaler les différentes options. Et donc permet éventuellement de faire apparaître de mauvais choix. Il ne faut pas dire les acteurs peuvent se tromper, les États nationaux ne peuvent jamais se tromper. On peut toujours reculer là-dessus. Les États nationaux aussi peuvent se tromper. Et la concurrence est une façon de provoquer ces débats. Et j'ai l'impression que au sein de l'Union européenne, c'est même un débat plutôt sain.
C'est très stimulant sûrement. Et là, je crois qu'il n'y a pas une seule solution, ça dépend beaucoup des domaines. Mais c'est vrai que au sein de l'Union européenne, je n'ai pas voulu me concentrer sur l'Union européenne, comme je disais au professeur Beignet Clef quand nous étions dans son bureau tout à l'heure. Je suis professeur aussi de droit européen, quand je suis au Canada, j'ai oublié l'Europe. Mais on assiste cependant à un certain risque de bottom. Par exemple, en matière de reconnaissance des diplômes, là c'est évident. Vous savez que l'Espagne est la seule nation qui confère le titre d'avocat immédiatement après la maîtrise. Et ce titre d'avocat est reconnu dans les 27 pays, ou dans les 26, puisqu'en Espagne c'est logique. Et alors, maintenant on peut aller faire une maîtrise en Espagne, être immédiatement avocat.
Si, si, mais ça vient du fait que vous avez au départ décrété que l'accès à la profession d'avocat est monopolisé.
C'est ça.
L'idée, ce n'est qu'un titre indicatif, c'est-à-dire on valorisera selon l'origine.
Oui. Mais bien entendu, c'est cette concurrence-là qui, entre Europe, s'effectue sur les règles qui sont en vigueur en ce moment. Donc, elle se pose dans un système qui est fortement réglementé. Et cette deregulation peut être positive, mais elle peut être aussi négative. En tant que citoyen européen, on n'est pas particulièrement passionné par cette idée. Qui est tant au plan du chocolat qu'au plan de la bière, qu'au plan de la reconnaissance des diplômes. En plus, c'est vrai ce que vous dites, qu'il y a toujours un équilibre. D'ailleurs, aux États-Unis, seulement 50%, et au Delaware, le restant est resté au bas. Mais 50%, c'est effarant. Il y a quand même 50% qui ont choisi le Delaware.
Si, mais sur les tribunaux spécialisés,
oui, mais...
les gens servissent, les gens savent, en connaissance de cause, les créanciers savent que la structure a été incorporée dans cet état, donc un droit applicable, c'est connu, il n'y a pas de cachette.
C'est vrai, mais par exemple, en Italie, quand on veut assurer sa propre créance, on prend des garanties. Et alors, la réponse qu'on a dit, ben, c'est très bien si vous avez une société qui a peu, si vous commercez avec une société qui a peu de capital, vous prenez des crédits. Mais par exemple, le fisc, lui, il ne peut pas prendre des garanties. Donc, tant que la situation est celle qu'elle est en Europe, c'est-à-dire c'est une situation fortement réglementée, la deregulation doit être accompagnée. C'est mon idée, par des règles. D'ailleurs, la Cour de justice l'a admis elle-même. Lors des trois arrêts célèbres, Saint-Rose, etc., Derby, etc., elle a dit, si ça ne vous plaît pas, et elle a fait comprendre qu'elle n'aimait pas ça, c'était tout simplement la conséquence du principe de la liberté d'établissement, vous n'avez qu'à faire des règles harmonisées en matière de société. Donc elle a offert elle-même la solution. Elle a laissé comprendre qu'à son avis, la situation n'était pas la situation optimale. Justement parce que probablement la grande différence du système de départ est un système où tout est réglementé. La production de chocolat doit suivre. Je ne sais pas, peut-être au Canada c'est différent. Moi quand j'explique aux étudiants la grande différence entre notre système européen et le système par exemple américain, des États-Unis qu'on connaît un peu à cause de la loi antitrust, c'est que chez nous, tout est réglementé, alors que là, tout était libre. Donc là, on est arrivé, je simplifie beaucoup, hein, bien entendu, on arrive, on s'installe, on fait. Tandis que dans la vieille Europe, il faut une licence pour faire le thé, il faut une licence pour devenir coiffeur, il faut une licence pour n'importe quoi. Et donc, bien entendu, la deregulation est un grand risque. En plus, qu'il me soit permis d'évoquer l'exemple des pavillons de complaisance. Là, ça montre bien que la race de bottom, si elle a l'avantage pour tout le monde de baisser les prix des marchandises, il n'y a personne qui l'arrête. Alors, il suffirait de dire, très bien, pavillon de complaisance, vous n'entrez pas dans le port de Montréal ou de Amsterdam, ça serait fini. Pourquoi on ne le dit pas?
Regardez, hein, parce que moi je...
Non, mais je veux dire, c'est...
Combien de catastrophes sont attendues récemment en Haute-Mer? Il y a quelque chose qui fonctionne.
Et les esclaves? Les esclaves qui naviguent?
Est-ce qu'il y en a dans l'Union Européenne?
Si.
Ah ouais, la traite?
Non, les esclaves, je parle des marins. Les marins. Je parle des marins.
Marins philippins. Pas tous. Mais...
Les marins cambodgiens, philippins, malgaches. Vous savez qu'il y a une exception à la charte... Là, je suis un peu provocatoire, je le mets. Dans la charte de Nice, il y a une exception pour les marins. C'est écrit en minuscule.
Oui, comme dans les contrats d'assurance.
Pour les marins.
C'est-à-dire, pratiquement... On exempte les marins non européens du principe à travail égal, salaire égal.
Ah,
responsable social, là, oui.
Ah oui, ça.
Non, mais j'avoue que c'est un sujet passionnant.
Mais
passionnant et difficile.
Reparlons-nous de cela dans 10 ans. Parce que reculons de 20 ans, et puis on disait tout le mal des conditions de travail des Japonais. Ça me paraît maintenant ridicule. 10 ans plus tard, Hong Kong, Taïwan, etc. Actuellement, ça me paraît complètement ridicule. Il y a, hélas, peut-être des passages obligatoires, des barrières, mais néanmoins, qui permettent à lever les gens de la pauvreté. Actuellement, enfin, nous assistons à un mouvement immense qui lève presque le tiers de la population mondiale d'une pauvreté abjecte. Et jusque-là, on n'avait pas d'autres recettes pour faire ça. Si, il y a des passages obligatoires désagréables. Des sweatshops, mais c'est également, comme l'expérience japonaise, les trois tigres asiatiques montrent, c'est temporaire.
Alors oui, la concurrence, effectivement, peut avoir de bonnes choses. Enfin, on avait dit la même chose pour la télévision, et depuis que la télévision est vraiment libéralisée, en Europe en particulier, on a droit à des choses sont pas très élevés. Hein, cela, c'est la race de bottes. Mais bon. Ah bah ouais. Mais ça, c'est assez clair. On aurait peut-être pu faire plus lentement. Ça aurait déjà été mieux.
Internet, évidemment, comme on peut choisir davantage, j'ai l'impression que les qualités sélectionnées vont venir par Internet.
Enfin, j'en voudrais d'évoquer trop de sujets parce que, évidemment, Biagiscogni est en particulier responsable de ça. Mais on ne va pas en mettre ça sur son dos parce qu'il n'y a pas que lui. Mais écoutez, y a-t-il d'autres questions ou d'autres commentaires
Mais montrez-moi une série d'exemples de riche ou de bottom réussi.
Ah bah réussi, non, ça ne peut pas réussir, non. C'est une course au fond.
On est appréhende et même le spectre nous amène à dire « Ah non, on ne permet pas ça
bah ». Écoute, la concurrence dans la télévision a amené vraiment des émissions de qualité médiocre. Est-ce que ça aurait été la même chose si on n'avait pas amené la concurrence? Peut-être, je ne sais pas, mais là c'est un exemple assez patent, ça. La concurrence a vraiment été archi-déliquescent sur la qualité de la télévision générale. Enfin, on peut peut-être poursuivre cette conversation autour d'un verre de vin. À moins qu'il y ait une question, et Gérald, peut-être tu veux...
Trop technique, j'en parle tout à l'heure.
Bah, écoutez, je vous invite à prendre un verre de vin et à continuer à bombarder notre invité de questions. Hein, de commentaires. Voilà, merci beaucoup.
Merci.